Poésie présente Corentine de Roselyne Bachelot, lue par l'auteur. Avec l'aimable participation de Jean-Philippe Lafond.
À Corentine Sinou, ma grand-mère. Avant-propos. Cette histoire est presque un roman. Certes, tous les personnages, et en particulier celui de Corentine, ont réellement existé. La plupart sont désignés par leur nom. Toutefois, quelques-uns ont une identité masquée pour des raisons qui m'appartiennent. Quasiment toutes les anecdotes, en particulier les plus significatives, et surtout le chemin de vie qui tisse la trame de ce livre sont vrais. On me les a rapportées. Pour autant, même si j'ai bien connu la plupart des protagonistes ou rencontré des personnes qui leur étaient proches, ces personnages étaient bien trop pudiques pour évoquer l'intimité de leurs sentiments. Je me suis donc glissée dans leur tête et dans leur cœur afin de raconter l'histoire d'une femme exceptionnelle, ma grand-mère. Prologue. Elle avait depuis longtemps solidement arrimé son chapeau avec une épingle et baissé sa voilette, mais attendait le dernier moment pour remettre la veste de son tailleur et éviter ainsi de la froisser. Le train s'arrêta dans un bruit de ferraille et de jets de vapeur, brinqueballant les voyageurs les uns contre les autres. La petite fille lui jeta un regard à la fois inquiet et soulagé. « On est arrivé, maman ?» Elle hocha la tête sans parvenir à lui sourire. « Gourin ! Gourin ! 10 minutes d'arrêt ! Buffet !» Veste mise, elle empoigna la laisse de Miquette, son loulou de Poméranie, descendit prestement les hautes marches du wagon, tendit les bras à l'enfant et récupéra ses bagages que lui passait un voyageur obligeant. Elle avait tellement imaginé ce retour, organisé sa mise en scène, qu'elle descendit du train en s'imaginant être une actrice montant sur les planches. L'échange de correspondance entre notaires avait réglé les détails de l'achat de la belle maison où elle comptait s'installer, la plus cossue de la place principale. Tous les plans étaient dans sa tête. Transformer le rez-de-chaussée en magasin de vêtements hommes et dames, aménager un café à l'arrière de l'échoppe où les clients pourraient entrer par un accès donnant sur la ruelle adjacente sans passer par la boutique, garder une cuisine et une salle à manger en arrière-main pour ne pas avoir à descendre quand tinterait la sonnette annonçant qu'une pratique poussait la porte. Elle voyait déjà les vastes vitrines séparées par deux larges battants, les comptoirs en bois bien cirés qui permettraient d'étaler les pièces de tissu, la grande glace sur pied légèrement pivotante pour allonger les silhouettes enrobées. Elle avait hésité longtemps sur le nom, puis avait décidé qu'il fallait quelque chose de simple, qui ne rebuterait pas une clientèle campagnarde. Va pour au bon accueil, ça dirait tout. Tout au long du voyage qui la ramenait de Paris en ce début d'année 1919, elle refaisait la liste des tâches à effectuer. Les aménagements du magasin, l'atelier de confection qu'il faudrait construire dans le jardin, le tailleur et les ouvriers à recruter, ainsi qu'un homme pour tenir le café, les commandes de marchandises. Quand la migraine devenait trop lancinante, elle se voyait offrant le café au lait et les crêpes aux clientes dans la salle ou étalant les draperies dont elle sentait presque l'odeur musquée mélangée à celle de la cire. Le premier étage serait son antre, son refuge, avec le buffet et la crédence style Henri II qu'elle avait repérée rue du Faubourg Saint-Antoine, un grand canapé tendu de velours rouge, comme ceux qu'elle admirait chez sa patronne, la vicomtesse de la Rousselet. Et puis des lits avec des matelas de laine et des draps brodés. Et puis des tableaux. Et puis de l'argenterie. Et puis de la vaisselle en porcelaine. Et puis une armoire à glace dans sa chambre. Et puis... Juliette aurait sa propre chambre, avec une commode pour ranger ses vêtements, et irait à l'école chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Un fait l'inquiétait en ce lendemain de guerre. Elle avait besoin d'hommes, ouvriers et artisans, afin de mener à bien tous ses projets. Or, la saignée avait été effroyable au sein de la population masculine. Comme dans toute la France, les morts se comptaient par centaines à Gourin et ses environs, sans oublier les défigurés, les mutilés et les estropiés sévères. Son mari, Jules, était mort dès la première bataille de la Marne, suivi de peu par son frère Yves, puis son frère Jean dans la Somme. Enfin, son père et le mari d'une de ses sœurs avaient rejoint le sinistre cortège. Quant à son dernier frère, Thomas, il était rentré de captivité dans un état épouvantable. En 1912, alors qu'il n'avait que 14 ans, ses parents l'avaient vendu à une sorte de maquignon qui cherchait du personnel pour une verrerie hollandaise où les conditions de travail étaient d'une dureté inouïe. Il souffrait tellement de la faim qu'ils n'avaient pas hésité à gager leur dernier né moyennant une somme d'argent qui leur avait permis de subsister quelques mois. Thomas était parti et n'avait plus donné de nouvelles. En fait, après quelques mois aux Pays-Bas, il avait été embauché dans une usine allemande non loin de la frontière néerlandaise avec des conditions de travail un peu moins pénibles. Dès le début de la guerre, il avait été réquisitionné par les autorités allemandes, mais avait refusé de travailler dans une usine d'armement pour ne pas, avait-il dit, fabriquer des munitions qui pourraient tuer ses frères. Il avait donc été jeté dans une forteresse teutonne et en avait été libéré quelques semaines après l'armistice. Après un voyage de retour éprouvant, il était arrivé le 24 décembre dans la ferme familiale où sa mère, qui le croyait mort, l'avait à peine reconnu puisqu'il pesait 32 kilos pour 1,76 m. La culpabilité d'avoir délibérément envoyé son enfant en quasi-esclavage ne semblant pas l'avoir touché, elle avait sommé son fils de l'accompagner à la messe de minuit, sans doute en guise d'action de grâce. Au moment de l'offertoire, le curé avait égrené la longue liste des morts de la paroisse. En entendant son nom, Thomas s'était levé et avait lancé « Non, je suis là !» Comble de l'injustice ou de l'ironie, alors qu'il avait passé plus de 4 ans dans les geôles allemandes, les autorités françaises l'avaient ensuite considéré comme insoumis, convoqué à Lorient en préalable à un service militaire qu'il allait devoir effectuer pendant 3 ans, dans les conditions particulièrement pénibles qu'on réservait aux fortes têtes.